Bailecito, une pièce de Carlos Guastavino sous les doigts de Willem Lachumia, et nous accueillons désormais Howard Haskin en musique. Bonjour, Howard Haskin.
Bonjour.
Alors, on vous entendait ici dans une œuvre phare, le premier opéra de Luigi Dalla Piccola, Il Prigioniero, Canti di Prigiona, et c'était un air où vous étiez en duo avec Giorna Hininen. J'ai mal à prononcer ce matin. Howard, première question. Est-ce que c'est un hasard de choisir ou de se faire choisir par le répertoire plutôt contemporain ?
Est-ce que c'est un hasard ? Pas spécialement. C'est une situation qui des fois dépend d'abord de la musicalité des personnages qu'on on engage. C'est également vis-à-vis le sujet qu'on est en train d'aborder. Des fois, on utilise plutôt des chanteurs de couleur ou des chanteurs qui sont d'outre-monde, tout simplement et tout bêtement parce qu'on ne va pas vouloir les mettre dans d'autres choses plus facilement. C'est-à-dire dans les répertoires qui sont plutôt standards, des Verdi, des Puccini, etc., comme ça.
Vous dites ça par expérience ?
Oui, par les propres expériences et des expériences qui sont des fois directes, des situations que j'avais vécues moi. C'est certainement des choses que mes antécédents ont eu comme problème également. C'est pas du tout qu'on n'aime pas la musique contemporaine. Au contraire, on aime bien. La preuve, il y a pas mal des œuvres qu'on a premiées et faites au début, comme pas mal des gens. Néanmoins, il y a beaucoup des chanteurs comme moi, des gens qui sont noirs, qui voudraient bien plutôt faire d'autres choses, faire le répertoire plutôt standard, si ce n'est que le simple fait qu'on fait toutes les expériences pour cela.
C'est-à-dire... Et par rapport à ce que vous dites, Howard, est-ce que vous avez ressenti une différence entre les États-Unis et l'Europe, appelons-la comme ça ?
Comme on dit les Allemands, Nein, oui et non. Oui, dans le sens qu'il est vrai que dans certaines circonstances, les Européens sont beaucoup plus accueillants pour les gens qui viennent des États-Unis, surtout des Noirs. Au même temps, malgré tout, et surtout aujourd'hui de nos jours, il y a des circonstances où les Européens deviennent de plus en plus xénophobes dans leur manière de regarder les choses, surtout quand il s'agit du classique. Dans tout genre, on croit.
Alors, il n'y a pas de hasard, parce que là, justement, l'œuvre de Dalla Piccola, Il Prigioniero, est en réaction contre, puisque ça a été composé dans les années 44-48, juste après la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Je vous propose, Howard, d'écouter tout de suite une très grande dame, très importante pour la cause des droits civiques américains, et notamment pour la communauté afro-américaine, c'est la grande Marian Anderson. La grande, la très grande dame Marianne Anderson avec Steve Hannen au piano, l'Ave Maria donc de Franz Schubert. Ouais. Et nous sommes toujours en compagnie de Howard Haskins ce matin. Alors, il y a un événement dont on peut se rappeler qui est très important dans la lutte, disons, dans la lutte pour les droits civiques américains de la communauté afro-américaine. C'est ce 9 avril 1939, jour pendant lequel Marian Anderson chante au Lincoln Memorial, après avoir été chassée du Met, du Metropolitan, opéra New York,
c'est ça.
Par les petites sœurs de la Révolution américaine, c'est bien ça, Howard, vous connaissez l'histoire?
Oui, grosso modo. Bon, je ne suis pas historien, il faut le dire tout de suite, donc je vais forcément dire des choses un peu à travers, mais c'est simplement pour dire qu'effectivement, ce groupe, c'est des femmes qui avaient des antécédents qui étaient justement dans la Révolution américaine. Donc, leur but principal, c'était d'avoir un petit peu plus de rapprochement entre les gens du Nord et les gens du Sud. Mais ils avaient également l'idée de garder toujours la séparation, la ségrégation entre noirs et blancs. Du coup, et c'est des gens également qui étaient en train de donner une certaine mécène envers le Metropolitan. Donc, avec leur pouvoir d'achat, façon parler, ils ont voulu exclure Marian Anderson de chanter là. Alors, c'est à cause de ça qu'il y avait cette histoire de lui faire chanter devant le monument de Lincoln, tout simplement et tout bêtement, parce qu'on savait pertinemment qu'on va avoir de la presse, d'une attention qui serait beaucoup plus importante, et que ça serait vraiment une façon d'adresser toute la nation pour dire « nous avons un talent qui est en train d'être exclu de quelque chose qui est plutôt national. »
Donc en 1939, Marian Anderson chante devant 75 000 personnes. Il y a des photos absolument incroyables, des vidéos sur Internet. Et elle disait d'un autre chanteur dont vous me parliez, Howard Askin en aparté, de lui qu'il était son héros. Ce chanteur, c'est Roland Hayes, et je vous propose de l'écouter tout de suite.
Maledetto sia l'aspetto che m'ardei tristo mai, poiché io sento frio tormento, poiché io moro, ne ristoro a mia pesa per te. Maledetto sia l'aspetto che m'ardei tristo mai, poiché io sento un tormento, poi che moro, ne ristoro a mia fe sul per te. Maledetto sia l'aspetto che m'arde tristo mai, poi che sento rio tormento, poi che moro, ne ristoro a mia fe sul per te.
Roland Hayes, le grand héros de Marian Anderson. Alors, on est dans le studio avec 118, avec Howard Askin. On est très ému à l'écoute de cette pièce du répertoire, plutôt assez inédit, assez inouï pour l'époque. Marian Anderson revenait jusqu'à Handel, mais Roland Hayes allait jusqu'à Monteverdi.
Ah oui.
Et Galuppi, etc.
Oui, oui.
etc.
Oui, oui.
Qui est ce grand chanteur, Howard Askin?
Encore, attention, je ne suis pas historien, mais c'était un énorme personnage dans le sens que c'était un jeune noir à l'époque, fils d'esclave, qui tout simplement et tout bêtement avait l'envie de chanter et de chanter de la lyrique. Or, comme tout gens à cette époque-là, il était exclu de faire des choses pareilles. Il n'y avait jamais eu personne, surtout à travers des noirs, pour chanter des choses pareilles. Lui, il avait fait comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il était allé dans une université noire, là, pour chanter des spirituels, surtout avec un groupe, parce qu'il y en a pas mal des groupes dans pas mal des différentes universités noires, qui chantent des gospels. C'est formidable, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment autre chose.
Et Marian Anderson aussi incluait dans ses programmes Sibelius, Mahler, mais aussi des spirituels.
Tout à fait. Pour dire au juste, alors là, je vais vraiment aller un petit peu loin. Nous avons tous passé par là, à un moment donné, dans nos carrières.
Vous aussi, Howard Askin?
Moi aussi. Moi aussi, mais moi, j'y vais encore plus loin. Moi, j'avais chanté non seulement des spirituels, mais des gospels. J'ai fait ça dans l'église. Et comme Roland, comme tous les autres, on avait tous, le grand partie du temps, on avait commencé dans nos églises pour chanter, etc., parce que ça faisait partie du jeu. Ceci dit, avec lui, revenons à Roland Hayes, l'autre chose, c'est que comme il n'avait personne, il n'y avait ni personne pour lui pistonner, ni agent,
ni impresario,
absolument personne. Il avait décidé lui-même, tout seul, comme un grand, de tout faire. Et puis, il finançait les concerts. Il avait un pianiste qu'il employait, qui payait, etc. Et puis, à la fin, bon, bah, ils ont mis leur concert ensemble et puis, ils se présentent. Alors, ils faisaient ça dans des grandes salles parce que là, ça coûtait très cher. Donc, ça ne se faisait pas deux jours le lendemain. C'était des mois et des mois de préparation, mais c'est comme ça qu'il a fait. Et il avait fait une petite carrière aux États-Unis, mais une plus grande partie de sa carrière était faite en Angleterre. Il était même tellement bien que, semble-t-il, pour le roi et la reine de l'Angleterre à l'époque, il a pu justement faire une audience privée et chanter pour eux. Mmh. Ce qui est absolument hors d'imagination de tout ce qu'on puisse imaginer. Mmh. Dans ce sens-là, c'était vraiment un homme extraordinaire.
Un très, très grand chanteur.
Très, très grand chanteur.
Alors, on passe à la génération peut-être un petit peu d'après. Une autre très grande chanteuse au timbre exceptionnel, c'est Leontine Price. On l'écoute tout de suite, accompagnée au piano. Attention, c'est un inédit de Samuel Barber. Le Nocturne Opus 13, numéro 4, de Samuel Barber, sous la voix de Leontine Price. Et puis, il y avait Samuel Barber au piano. Alors, Léontine Price avait 26 ans le jour de cet enregistrement. Samuel Barber en avait 28. Samuel Barber chantait aussi. Hein. Et Léontine Price est tout simplement une des plus grandes Aïda de toute l'histoire de l'opéra, un timbre exceptionnel, aidé à ses débuts par une autre grande basse afro-américaine, Paul Robeson. Alors, il y a trois dates à retenir pour Léontine Price. Le 21 mai 1960, c'est la première interprète noire à monter sur le Palco Scenico de la Scala de Milan. Il y a aussi en 1961, on la retrouve dans le rôle de Léonore du Trouvert, 6 ans après la première apparition de Marianne Anderson et de Robert McFerrin, le père de Bobby. Hein. Et puis enfin, en 1982, dans une sorte de repentance symbolique, on pourrait appeler ça comme ça, l'Association des filles de la Révolution américaine l'invite à venir chanter au Constitution Hall de Washington, d'ici exactement là où l'association avait refusé d'accueillir justement Marianne Anderson.
Voilà.
Alors, est-ce que pour vous, Léontine Price, c'est un peu celle qui a ouvert la voie à Jessie Norman, à Kathleen Battle?
Pour dire au juste, elle était beaucoup plus que ça. Elle est actuellement la mère de toutes les Noires qui chantent aujourd'hui et qui chantaient après elle. Parce que il est vrai que Marianne était plutôt la grand-mère, c'est elle qui a ouvert les portes du Met, parce qu'il faut toujours partir du principe qu'on mesure des choses pour nous à rapport du Metropolitan et le fait qu'on pouvait mettre des pieds là-dedans. Mais, donc Marianne Anderson était la grand-mère, Léontine Price était la mère. Parce que c'est elle
qui est la fille, Howard.
Voilà.
Qui est le fils.
Qui est
la fille aujourd'hui.
Qui est la fille aujourd'hui. Oh, ben ça, je ne sais pas, il y en a plein. Mais c'est-à-dire que c'est vrai, elle nous a inspirés tous. On voyait la manière qu'elle se comportait, la façon qu'elle faisait des choses, sur tous les points de vue. Ce n'était pas simplement le fait qu'elle chantait comme une déesse, c'était également le tout le paquet. Et ça, pour nous, était très, très important. Ça nous a appris des tas de choses, non seulement de la manière de chanter, mais vis-à-vis de la manière de travailler avec les gens, l'administration, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle a une influence très, très importante. L'une des choses qui est très importante quand il s'agit des questions de racisme pur et dur, c'est qu'il faut du temps. Les gens ne vont pas changer leur manière de regarder des choses du jour au lendemain. Moi, par exemple, il y a un moment donné, au début, il y a le fameux opéra Porgy and Bess. Quasiment tout les gens passent par Porgy and Bess. Après, il faut quitter Porgy and Bess.
Bah, vous soulevez une problématique absolument fondamentale,
voilà,
pour aujourd'hui.
Voilà.
Vous parliez, Howard Askin, justement, de l'Afrique du Sud. Ça me fait penser à un autre grand chanteur,
oui,
qui s'appelle Simon Estes,
oui,
et qui était un grand copain, hein, de Léontine Price, qui a chanté justement Aïda avec,
oui,
elle.
Oui.
Et je voudrais qu'on l'écoute ici, parce que c'était un monsieur, un grand humaniste que vous avez connu. On l'écoute tout de suite.
D'accord.
Dans Le Trouvert, et vous nous en parlez juste après.
Vincere
Le grand, le très grand Simon Estes est ici le comte di Luna, déclarant sa flamme à Leonora dans le Trovatore de Giuseppe Verdi, accompagné par le New Philharmonic Orchestra, direction Gaetano De Logu. Et je crois, Howard, que vous l'avez connu, bien connu.
Simon? Oh oui! L'histoire avec Simon est très intéressante. Je suis venu en France d'abord pour faire justement Porgy & Bess. On est passé à Zurich. On avait fait... à travers tout le monde, des auditions pour être dans l'Opéra Studio de l'Opéra de Zurich. Et j'étais le seul qui était admis dans ce studio. Or, il y avait un problème fondamental. Pour les Suisses, j'avais minimum 9000 francs suisses afin d'y rester dans le pays. Je n'avais pas un rond. Donc, il y avait le directeur de l'Opéra Studio qui a fait une approche envers Simon, en lui expliquant des pourquoi, des comment. D'autant plus que Simon avait... solliciter à ces gens qu'il y aurait un noir dans l'Opéra Studio.
Il a fait la demande.
Il a fait une demande très, très, très forte. Du coup, il était mis au courant du fait que j'existais. Or, il ne m'avait jamais vu, il ne m'avait jamais entendu, il n'avait aucune idée qui j'étais, ni quoi, ni qu'est-ce. Et il m'a quand même sorti de l'argent. De ces 9 000, il a sorti 3 000 tout de suite. En disant, voilà, 3 000 pour commencer, vous cherchez le reste à travers des autres gens. Bref, à travers lui, j'ai pu rester en Suisse. Non seulement cela, on est devenus des très, 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 très grands copains.
Votre histoire, Howard, me fait penser au fait qu'il a quand même ouvert une école en Afrique du Sud, je crois.
C'est ça.
Cette générosité se ressent également dans sa très grande voix, hein, dans son très grand legato. Howard, je crois qu'il est l'heure de nous quitter.
Ah.
On a écouté beaucoup de musique. Je vous laisse le choix de l'extrait qu'on va écouter.
Bon.
Et je crois que c'est Samson, hein, c'est ça.
Samson.
Qu'est-ce que c'est, quel air c'est, Howard?
C'est pas tout à fait un air, c'est en fait, parce qu'il y a pas d'air pour Samson. En fait, c'est une extrait qui s'appelle Vois ma misère, hélas, que j'avais fait en São Paulo, au Brésil. C'était à l'époque de 75e anniversaire de leur théâtre, qui est actuellement une réplique de Garnier. Donc, j'ai fait ça avec l'orchestre du théâtre, avec Ira Levin, qui était le chef d'orchestre.
Voilà. Eh bien, écoutez, Howard, un très grand merci. Merci,
moi.
Vois ma misère, hélas, l'acte 3, scène 1 de Samson et Dalila. C'est un enregistrement donc que vous ne retrouverez pas chez votre disquaire, puisque c'est Howard Askin qui nous l'a apporté ce matin. Et ici, vous entendiez l'orchestre de l'Opéra de São Paulo, direction Ira Levin, en 2005. Merci Howard Askin d'avoir accepté mon invitation. Merci, je vous propose d'accompagner votre départ avec deux courts extraits que vous connaissez, Howard.